Chers amis du Jardin du Curé, très heureux de vous retrouver. Alors aujourd'hui, nous allons rajouter des hors-séries pour cette saison consacrée au Père de l'Église. Et je vous propose aujourd'hui de parler d'une grande figure pontificale, Saint Léon. Saint Léon, qui est aussi appelé le Grand. Mais avant de commencer, je vous rappelle qu'il est important pour nous que vous mettiez des pouces, dont j'ai oublié la couleur, et surtout que vous partagiez, que vous fassiez connaître autour de vous ces petites vidéos, voilà, pour qu'elles puissent atteindre d'autres destinataires. Si vous, vous en êtes satisfait, j'imagine que d'autres gens les apprécieront aussi. Je rappelle aussi, je me permets de rappeler aussi, le but de ces vidéos: faire connaître l'histoire de l'Église, découvrir quelques-uns de ses grands protagonistes et des grands moments qui ont balisé l'histoire de l'Église depuis 2000 ans. C'est important. Cela nous permet d'acquérir ce regard en profondeur, parfois aussi ce recul nécessaire au milieu des aléas de l'époque contemporaine. Voilà, chers amis. Alors, parlons donc de Saint Léon le Grand. Alors, Saint Léon, il pose un problème ses biographes, parce qu'en fait, c'est un homme qui a été très avare de confidences sur sa jeunesse, et nous ne savons pratiquement rien de la période qui précède le moment où il devient archidiacre de Rome, c'est-à-dire le deuxième personnage le plus important après le pape. Nous savons pratiquement rien. On peut imaginer une formation classique reçue à l'école traditionnelle à Rome, mais on n'en sait pas grand-chose. En tout cas, il avait la confiance du pape Sixte III, et à la mort de celui-ci, en août 440, nous sommes donc à la fin du 5e siècle, il était en Gaule chargé d'une mission diplomatique. En son absence, les électeurs le choisissent pour remplacer le pape défunt. Et donc, une délégation officielle va le chercher, et il est ramené à Rome, où il sera ordonné à son retour au mois de septembre de la même année. Lorsque l'on est pape à Rome à la fin du 5e siècle, l'influence, la zone d'influence du pape se divise en trois cercles concentriques. Il y a d'une part la ville de Rome, il y a ensuite l'Italie, on appelle aussi l'Italie suburbicaire, et puis il y a l'Orient. Quand je dis l'Italie, en fait, soit on associe Rome et l'Italie, soit on associe l'Italie et les pays avoisinants. En tout cas, le pape à Rome, vous le savez aussi à cette époque, en ces temps difficiles et ces temps de malheur, exerce aussi des fonctions administratives, des fonctions d'assistance sociale, on dirait aujourd'hui. Et c'est ce qu'il fait. On sait que concernant l'Italie et puis les zones avoisinantes, il va essayer de rétablir la discipline dans un certain nombre de domaines, les conditions de l'admission à l'épiscopat, la date du baptême, lors de la fête de Pâques ou lors de la fête de la Pentecôte, etc., etc. Il va réunir également des conciles locaux. Alors, ce n'est pas ce qu'on appellerait aujourd'hui l'activité synodale, mais en tout cas, le rôle du pape, c'est aussi de réunir les évêques pour débattre des questions locales et rappeler la foi catholique, bien sûr, et puis aussi, parfois, mettre un peu de discipline. Les historiens rappellent qu'il a été obligé de s'adresser à Hilaire d'Arles, l'évêque d'Arles, pour le remettre à sa place parce qu'il avait usurpé certaines de ses prérogatives en s'arrogeant la suprématie sur les évêques locaux et ceux de Gaule. Bref, on sait aussi qu'il a écrit des lettres à la destination des églises d'Afrique. Alors, quand on parle de l'Afrique à cette époque-là, vous le savez, on en a déjà parlé, on parle de l'Afrique du Nord. Et c'est le moment de l'invasion par les Vandales qui touchera si fort Saint-Augustin. Voilà. Alors, ce qui va nous intéresser, dans un deuxième temps, c'est son œuvre en Orient. Cela nous intéresse à deux titres. D'abord parce que cela manifeste que de la relation profonde qui existe entre l'Église d'Orient et d'Occident, malgré les difficultés, malgré les querelles. Et puis, cela également nous intéresse beaucoup parce que, à travers ces activités, nous voyons s'exercer la primauté du siège de Pierre, qui à cette époque-là est encore incontestée, même si elle n'est pas théorisée. Il n'y a pas de document qui l'affirme, il n'y a pas de document concernant cette question pour la justifier, pour l'argumenter, etc. Mais elle se vit, et on va voir comment. Le pape Léon va intervenir en particulier à l'occasion des troubles qui sont provoqués dans ces régions-là par l'enseignement d'un certain Eutychès. Alors, cet Eutychès, nous n'allons pas rentrer dans les détails, dans ses subtilités, mais en gros, pour faire court et bref, et que tout le monde comprenne, Eutychès ne veut voir dans le Christ qu'une seule nature, uniquement la nature divine. Je ne vais pas rentrer dans les détails qui me dépassent et qui vous dépassent, mais l'essentiel pour nous est de redire que nous croyons au Christ, vrai homme et vrai Dieu, et que cela a été contesté parce que, évidemment, cela paraît dépasser toute logique et tout bon sens. Et donc, cette hérésie qu'on va appeler le monophysisme agite l'Orient, de nouveau des disputes, de nouveau des querelles, et donc le pape Léon va adresser à l'évêque de Constantinople une lettre, qu'on appelle le tome, tomos en grec, hein, qui se trouve dans le registre des lettres que l'on a conservées du pape Léon, et il rappelle, de manière ferme et claire, au patriarche de Constantinople, l'unique personne du Christ en deux natures. Voilà. C'est à la fois un témoignage de la foi de l'Église dans ce qu'est notre Seigneur, une seule personne, deux natures, et donc c'est important pour fixer la foi. Cette querelle aurait au moins l'avantage de permettre cette avancée et cette précision dans la réflexion. Et il va pousser à la réunion d'un concile pour tenter de mettre fin à ces querelles. Alors, nous y reviendrons dans la série qui parlera des conciles. Il y a eu une réunion convoquée par l'empereur Théodose II, qui va très mal se passer, qui va tourner à l'émeute et qu'on appelle le brigandage d'Éphèse, qui aura lieu en 449. Finalement, avec le changement d'empereur, une réunion en bonne et due forme va pouvoir se réunir pour proclamer la foi de l'Église, c'est le concile de Chalcédoine, dont nous reparlerons aussi en 451. Ce qui nous intéresse en particulier concernant le premier sujet, à savoir la primauté de Pierre, c'est que la lettre de Saint Léon est lue publiquement devant l'Assemblée des évêques et que, alors s'agit-il d'une voix unanime ou de la voix de l'un d'entre eux, en tout cas, pour eux, la chose est claire, Pierre a parlé par la bouche de Léon. Et cette phrase va être retenue par les historiens au cours des siècles pour appuyer cette conviction profonde que, en effet, lorsque le pape de Rome, lorsque le successeur de Pierre parle, c'est comme si c'est Pierre qui parlait. Et cette fameuse lettre, le tome de Léon, le tome à Flavien, va servir de base au texte conciliaire de Chalcédoine. Par contre, vous le savez, nous aurons l'occasion également d'en parler, il y a dans tous les conciles, quels qu'ils soient, depuis le concile de Jérusalem jusqu'au concile du Vatican II, deux sortes de textes dans les conciles, les textes qui concernent la foi, et les textes qui concernent la discipline. On a séparé souvent ça en disant qu'il y avait des canons, des règles émises par les pères au sujet de l'Église, concernant la vie quotidienne de l'Église. Et là, le pape Léon va refuser, et nous sommes là aussi dans une question qui est encore brûlante, près de 15 siècles plus tard, à savoir que, dans leur enthousiasme, les évêques réunis en Orient, en l'absence du pape qui n'avait pas pu se déplacer, avaient proclamé que le siège de Constantinople était la deuxième Rome, la nouvelle Rome. Alors ça nous intéresse beaucoup parce qu'évidemment nous voyons et nous comprenons, et ça va nous aider à comprendre la conception qu'ont nos frères d'Orient, en partie évidemment orthodoxes, sur la nature de la succession de Rome. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire simple, excusez-moi, il y a ancré, je vous renvoie à ma vidéo faite sur Constantin, il y a ancré profondément l'idée que le politique est responsable du religieux. La religion licite de l'Empire, qui était donc le paganisme, est devenue le catholicisme, le christianisme, et que l'empereur reste encore en charge des questions religieuses, de la discipline de l'Église, et éventuellement de sa foi, en convoquant des conciles, puisque les empereurs convoquaient les conciles. De là, il découle l'idée qu'au fond, l'Église est là où se trouve non pas le successeur de Pierre, mais l'empereur. Puisque la capitale de l'empereur n'est plus, à cause des malheurs des temps, Rome, sur les bords du Tibre, eh bien, l'évêque de Constantinople, devenu patriarche, va considérer qu'il a une dignité égale à celle du pape de Rome, dans l'idée, évidemment, non exprimée, que peu à peu, il mettra de côté l'autorité du successeur de Pierre sur le siège de Rome. Et donc, cela va réorienter toute l'histoire de l'Orient chrétien. Et pour se rapprocher de questions qui nous intéressent encore plus, parce qu'elles sont brûlantes et dans l'actualité, lorsque Constantinople tombera, lorsque l'Empire grec disparaîtra, l'Empire de Byzance, eh bien, très naturellement, dans un réflexe qu'on peut alors comprendre, il ne s'agit pas de le justifier, voilà, mais on comprend très bien que c'est alors, en Orient, le pouvoir le plus puissant va pouvoir s'arroger la succession et devenir la troisième Rome, c'est-à-dire celle qui se trouve à Moscou, où l'Église devient un nouveau patriarcat et surtout le siège d'un nouvel empire, empire chrétien, empire qui se dit l'héritier de Rome, et donc ayant autorité politique et religieuse, selon le système byzantin, sur lequel on aura aussi l'occasion de revenir à plusieurs reprises. Donc vous voyez, cela déjà nous montre et nous rapproche de problèmes plus contemporains. En tout cas, ce que nous pouvons retenir aujourd'hui et qui est important dans la figure de Saint Léon, au-delà de sa personne, que nous connaissons finalement peu, c'est deux choses. Ce que je viens de vous expliquer maintenant. Et puis, dernière chose, en tant qu'évêque de Rome, il a été donc prédicateur, il a enseigné le peuple chrétien. La deuxième chose que nous devons retenir et qui est notre héritage et qui nous permet de recevoir l'héritage de Saint Léon, ce sont ses sermons. Il est en effet le premier pape dont nous conservons les sermons. Nous en avons 96 et ils sont un commentaire de l'année liturgique. Nous avons le premier grand commentaire théologique, spirituel et voire mystique de l'année liturgique. Et l'on connaît un petit peu, en particulier, les sermons de Noël. Donc je me permets de vous recommander. On en trouve des morceaux choisis sur Internet, c'est relativement facile à trouver. On en retrouve également dans l'Office des lectures, dans le bréviaire, pour ceux qui en sont un peu plus familiers. Voilà. Lorsque vous voulez méditer sur le sens profond de la liturgie latine, plongez-vous dans Saint Léon. Je terminerai juste par cette fameuse citation que tout le monde connaît et qui est tellement magnifique dans un sermon de Noël. Ô chrétiens, souvenez-vous de votre dignité puisque vous participez à la nature divine, ne retombez plus dans votre ancienne bassesse par des actions qui pourraient vous déshonorer. Souvenez-vous de quel chef, de quel corps vous êtes les membres, souvenez-vous que vous avez été délivrés de la tyrannie du prince des ténèbres pour avoir part à la lumière du royaume de Dieu. On connaît la première partie de la citation, elle est magnifique. Souviens-toi, ô homme, de ta dignité, mais on oublie à quel prix elle doit se payer, ou plutôt ce qu'elle implique dans notre vie évangélique. Voilà, merci de votre attention. Je vous dis à très bientôt, j'espère. Encore une fois, tous vos commentaires, vos appréciations, j'essaierai de les lire et d'en tenir compte. Et je vous dis à très bientôt. Merci.